Vous écoutez On lit pour vous.
Ce besoin de raconter sa vie. Un dossier de Marissa Grosgué, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Depuis toujours, l'être humain se raconte à l'écrit. Il existe partout au Québec des initiatives visant à guider la rédaction d'une autobiographie ou de mémoire. Qu'est-ce qui explique ce besoin fondamental de laisser une trace? Premier texte pour laisser une trace. Attablé en demi-cercle dans l'ancien presbytère de la rue principale d'Albanel, 5 auteurs ont devant eux les autobiographies qu'ils ont rédigées ces dernières années. Sans expérience aucune, ils ont entrepris de retracer leurs souvenirs dans un livre en participant au programme d'écriture « Je me raconte », dont les ateliers permettent de bâtir, page par page, le récit de sa vie. Tout à gauche, dans sa veste fleurie bleu et blanc, Évangeline Plourde, 82 ans, veut laisser un peu de souvenirs de son passage dans le temps. Ses souvenirs d'enfance sont clairsemés, mais la grand-mère et arrière-grand-mère évoquent dans son livre le soir d'automne où, toute jeune, elle s'est retrouvée assise au pied d'un bâtiment de ferme. Elle lit l'extrait au groupe. C'est là que je prends conscience que je suis quelqu'un. Je me mets à fredonner la chanson « Au fond des campagnes ». Et là, je me sens vraiment heureuse. Aldéhi Darvaux, lui, s'est intéressé à ses ancêtres, la famille Darvaux du Lac-Saint-Jean. Cela a permis de consigner des souvenirs partagés par beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup de feedback de parfaits inconnus, dit le sociologue de formation né en 1942. Marie-Claire Fontaine, 71 ans, a plutôt orienté son autobiographie vers le tournant qu'a pris sa vie durant les années 1980. La persévérance dans ce que j'entreprends qualifierait le mieux mon passage sur cette terre, si je pense au changement de style de vie que j'ai adopté à l'âge de 30 ans, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, écrit-elle dans « À 30 ans, j'ai changé ma vie ». Les récits de ces auteurs tracent une histoire commune, celle du besoin de se raconter. L'important, ce n'est pas d'avoir eu une vie extraordinaire, mais de trouver extraordinaire, d'avoir reçu la vie et de l'avoir vécue, nous dit Carole Gagnon, coordonnatrice et animatrice du programme « Je me raconte ». Gérard Barry, le 5e auteur présent ce jour-là, voulait témoigner dans son autobiographie du fait que la vie peut être belle, mais que c'est à nous de faire qu'elle soit belle. Et puis, sa femme et lui, ajoute-t-il, avaient l'une des 3 seules fermes du Saguenay où la femme était considérée comme une partenaire officielle de l'entreprise. Quand j'étais jeune, mes grands-parents me racontaient leur vie. Maintenant, je veux aussi témoigner de quelle façon s'est bâti notre pays. Un besoin fondamental. Depuis 2002, le programme « Je me raconte » a rejoint, partout au Québec, plus de 560 participants. Des initiatives comme celle-ci existent un peu partout dans la province. Durant la pandémie, en 2020, Jeannette Bertrand a lancé des leçons en ligne où elle enseignait les rouages de l'écriture autobiographique. Le projet « Écrire sa vie » était un moyen d'aider les aînés à passer à travers la période pandémique, explique le Dr David Lucier, gériatre et co-directeur scientifique du programme. Le livre « 100 ans d'histoire »« Vous m'avez raconté le Québec » de Jeannette Bertrand résulte de ce projet qui a également permis l'écriture de 2000 récits autobiographiques. Toutes ces histoires personnelles se rassemblent dans la grande histoire collective et permettent un legs pour la descendance ainsi que pour la collectivité, mentionne le Dr Lucier. Raconter nos vies est important justement parce qu'il s'agit d'une forme de manifestation de notre humanité, à côté de la science, de la mythologie, de la poésie, dit Luce Desaulniers, docteur d'État en anthropologie et professeur émérite au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Faire le récit de soi, dit-elle, c'est un processus tout à fait humain, un besoin fondamental. C'est une pratique ancestrale. On n'a rien découvert. Un coup de main pour se raconter. Pour aider les gens à se lancer dans la rédaction de leur mémoire, Maude Roberge-Dumas et Christian David ont fondé L'Assembleuse, une boutique où l'on vend notamment des journaux autobiographiques. Des familles perdent leurs souvenirs parce que l'écriture des mémoires est trop pragmatique, témoigne Maude Roberge-Dumas. Le journal de L'Assembleuse se veut simple. Il est divisé en sections où l'on invite à répondre à des questions précises, mais ouvertes, afin de retracer la ligne du temps d'une vie. Laurette Beaulieu-Daou a rempli son journal autobiographique après l'avoir reçu en cadeau de sa fille Karine. Son mari, décédé il y a 3 ans, avait lui-même écrit ses mémoires. Il avait écrit sa partie de l'histoire et je me suis dit que ma mère n'écrirait pas la sienne sans déclencheur, témoigne Karine Daou. En lisant ce que son mari avait écrit, Laurette a réalisé que la famille et les amis connaissent une partie de toi, mais jamais l'ensemble de ce que tu es. Alors, elle a écrit aussi, en commençant par son enfance. Comme son mari, elle souhaite que ses écrits ne soient lus qu'après sa mort. Les gens de mon époque, on n'a pas beaucoup de facilité avec les mots et la communication, dit-elle aujourd'hui. Mais je souhaiterais que tout le monde fasse l'exercice. C'est tellement bon pour soi-même. Raconter à tous âges. Raconter, d'accord, mais encore faut-il se souvenir. À l'idée qu'il est trop difficile de se remémorer notre passé, Luce Desaulniers répond que la mémoire est une chose fantastique. Le corps humain se souvient même quand on pense avoir oublié. La mise en mots fait ça. Ce n'est pas un réservoir dans lequel on puise. C'est plutôt comme si on tirait sur un fil dans le travail de remémoration et que les choses revenaient à force de délier la bobine. D'ailleurs, la rédaction de ces mémoires semble a priori destinée à ceux qui ont le vécu nécessaire pour noircir des pages de récits. Souvent, ce qui nous motive, c'est de ne pas trop mourir, dit Luce Desaulniers. On se rend bien compte qu'on est sur l'autre versant de la courbe du temps biologique. il est important de raconter comment on a existé, en trouvant le chemin entre l'âme et la main. Mais l'écriture autobiographique n'a pas d'âge. Anne Pérouse, autrice et professeure à la Faculté de lettres de l'Université Laval, a enseigné l'écriture autobiographique et autofictionnelle. Les jeunes de 19 ans en avaient beaucoup à dire, témoigne-t-elle. L'engagement est très fort dans la jeunesse. Le propos critique est beau. La valeur de nos vies. Laurette Beaulieu-Daou, elle, n'estimait pas que sa vie méritait d'être consignée. Mais en faisant le tour, je me rends compte que j'ai fait telle chose, que j'ai réussi telle autre. C'est un bel héritage à laisser pour montrer que ce n'est pas toujours facile, mais que tout est possible. La clientèle de l'Assembleuse est d'ailleurs surtout constituée de jeunes qui offrent le journal autobiographique à leurs parents ou à leurs grands-parents, explique la cofondatrice Maude Roberge-Dumas. Les aînés ont cette perception très judéo-chrétienne qu'il ne faut pas se raconter, que leurs histoires personnelles n'ont pas de valeur et que les biographies sont pour les personnalités publiques qui ont fait de grandes choses. Ce qui compte, c'est l'acte d'écrire, de laisser une trace. Le seul devoir est par rapport à soi-même, à sa parole et à son vécu, souligne Anne Pérouse. Les écrits restent. C'est important de laisser quelque chose. Vous écoutez? Ce besoin de raconter sa vie. Un dossier de Marissa Grosguet, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Deuxième texte. L'immigration à travers les mots. Raconter son histoire et celle de ceux qui nous précèdent, lorsque ces parcours incluent l'immigration, revêt une dimension particulière. La presse s'est entretenue avec un immigrant et deux descendants d'immigrants qui ont déposé leur expérience sur papier. Lorsqu'il est arrivé au Québec en 2009, doctorat en littérature française sous le bras, Mensa Emezzo espérait trouver un poste en enseignement sans trop d'embûches. Togolais d'origine, il a fait ses études supérieures en France, mais a souhaité planter ses racines au Québec. Ici, il a cherché un emploi pendant des années sans succès. Chaque fois, quand il y avait un poste permanent, ça ne fonctionnait pas. Et on me disait que c'était normal, parce qu'on priorisait les Québécois, raconte-t-il. Cette phrase m'a traumatisée. Je pensais que j'étais Québécois. Près de 10 ans plus tard, il a écrit ses mémoires intitulées « Dites-leur que je suis Québécois ». Il y raconte son intégration manquée au Québec, au niveau professionnel. Quand le livre est sorti, il est devenu évident pour Mensa Emezzo, au fil de ses rencontres, que beaucoup de gens vivaient la même chose que lui. Les personnes qui immigrent, peu importe leur société d'accueil, prennent souvent un certain moment pour réaliser les ruptures accumulées, souligne Liliane Rachedi, professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, spécialiste de la question des auteurs immigrants. Il est question des ruptures pragmatiques, comme la perte de sa maison, de son quartier. Il y a celles qui sont plutôt culturelles, liées aux coutumes de leur pays d'origine. Et puis, il y a les ruptures relationnelles, celles qui surviennent lorsque l'on rompt les liens physiques avec ceux que l'on quitte. Naît alors la pulsion de réintroduire la continuité et de relier ces espaces de rupture en écrivant. Le récit de soi est une stratégie qui va même aider avec une rupture plus symbolique, celle de la perte de statut, dit Liliane Rachedi. C'est en partie de cela que parle Mensa e Mezzo dans son livre. En le lisant, beaucoup de monde découvre notre réalité avec le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, dit-il. Aujourd'hui, le livre est même offert aux établissements de son conseil scolaire à Ottawa, où il travaille, pour les aider à mieux accueillir les enseignants issus de l'immigration. Raconter ses ancêtres. Les frères et sœurs Djibril et Yasmine Fan Morissette, eux, ont écrit une bande dessinée pour raconter leur histoire et celle de leur famille d'origine vietnamienne. Dans Kiem, terre maternelle, un album sur le pouvoir de la transmission intergénérationnelle, le duo présente le parcours de sa grand-mère maternelle, Kiem, de sa mère, Trang, et de Yasmine elle-même. Djibril est bédéiste. Yasmine a toujours écrit. Leur mère, elle aussi, avait écrit un livre pour raconter son voyage en bateau du Vietnam au Canada. Leur grand-mère, elle, avait consigné au crayon à mine tout un pan de son histoire, que sa fille, Trang, a traduit et retranscrit à l'ordinateur pour ne pas les perdre, et pour que ses propres enfants, qui ne parlent pas vietnamien, y aient accès. Ces récits ont inspiré le roman graphique qu'ils ont fait paraître en 2020. C'était le prolongement d'une réflexion qu'on avait déjà eue ensemble, en famille, dit Yasmine. Mais le produit, l'album, est à la fois le processus, parce qu'on raconte les différents moments où on est allé au Vietnam et où on a rencontré des membres de notre famille alors qu'on avait déjà commencé à écrire le livre, ajoute Djibril. L'histoire des trois femmes de la même lignée, au parcours si différent, a renforcé le lien qu'elles partagent. Ça m'a permis de rencontrer ma grand-mère, décédée avant que je naisse. Mais ça m'a, par-dessus tout, rapprochée de ma mère, dit Yasmine Fan Morissette. Le second chapitre du livre, qui se penche sur la vie de Trang, a été écrit en collaboration étroite avec elle, dans un processus très émotif et intime. Un point de vue direct. On écrit pour prendre la parole, s'insérer, faire réfléchir, raconter ce qu'on a vécu, énonce Liliane Rachedi. La fonction de témoignage est importante. La fonction thérapeutique est aussi bien documentée, ajoute la professeure. Ici, s'insère parfois la douleur des souvenirs, bien que l'acte d'écriture permette un processus de distanciation et même de réparation pour certaines personnes. Avec le temps, écrire une page va permettre d'être capable de la tourner, dit Liliane Rachedi. Raconter l'intimité mène à une troisième fonction, la transmission. On cherche à raconter des histoires personnelles qu'on a vécues avec notre point de vue et pas juste celui qu'on retrouve dans les médias, dit Mme Rachedi. Et dans les cas où les souvenirs se retrouvent entre les mains du public, ils permettent un accès expérientiel un matériau privilégié pour les recherches, une trace d'une expérience directe à laquelle on a accès ad vitam aeternam et qui permet de l'empathie, de la nuance. Finalement, le récit des personnes immigrantes mène parfois à une fonction critique, comme ce fut le cas pour Mensa et Mezzo. Ça arrive au bout d'un certain temps, surtout quand on vit de la discrimination, par exemple, mentionne Liliane Rachedi. L'héritage de la mémoire. S'étant intéressée à la situation des réfugiés, l'anthropologue Luce Desaunier a observé que, pour les gens qui tentent de survivre, écrire et se raconter restitue une parole interdite, volée ou empêchée. L'exercice devient alors une réclamation politique, en plus d'un héritage. Yasmine et Djibril Fan Morissette n'ont pas vécu ce que leur mère et leur grand-mère ont traversé, mais le devoir de mémoire a donné la parole aux deux femmes. Yasmine, en suivant les traces de son identité, se sent enrichie de cette mémoire. De continuer de la transmettre, c'est un héritage en soi, dit-elle. C'est quétaine, mais il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. La conclusion de notre livre dit que tout le monde n'a pas un parcours d'immigration dans sa famille, mais que la démarche qu'on a entreprise, tout le monde peut la faire pour s'intéresser à ce que les générations précédentes nous ont donné, ajoute Djibril. C'était ce besoin de raconter sa vie. Un dossier de Marissa Grosgué, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse.
Une minorité d'opérations hors délai devrait être transférée au privé par Santé Québec. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 29 juillet 2026 dans Le Devoir. Santé Québec pense pouvoir faire fondre de moitié la liste d'attente en chirurgie au cours des prochains mois, et ce, sans transférer de patients aux cliniques privées dans la grande majorité des cas. Ainsi, parmi les 3641 personnes au Québec qui sont toujours en attente d'une opération depuis plus d'un an, seules 300 personnes devraient être transférées dans des cliniques privées, selon Stéphane Tremblay, directeur général des soins et services spécialisés et surspécialisés en santé physique chez Santé Québec. En décembre 2025, le gouvernement du Québec s'est doté d'un règlement pour que les patients en attente depuis plus d'un an puissent automatiquement être transférés dans des cliniques privées pour être opérés. Or, comme le révélait Le Devoir récemment, ce service promis pour le printemps n'a pas encore été déployé. En entrevue, Santé Québec a confirmé que le projet pilote devait toujours aboutir au cours des prochains mois, mais a souligné que ce ne serait utile que dans une minorité de cas, puisqu'elle dispose déjà d'outils efficaces pour réduire la liste d'attente. Ces outils consistent en deux stratégies qui ont déjà donné des résultats tangibles, a expliqué M. Tremblay. La première a consisté à revoir complètement la gestion des horaires des salles d'opération pour prioriser les interventions qui vont avoir de l'impact sur la liste d'attente, comme l'orthopédie et la plastie, qui sont en grande demande. La seconde option consiste à offrir aux patients dont les demandes sont à risque de devenir hors délai d'être opérés dans des hôpitaux voisins, au public ou dans les centres médicaux spécialisés à proximité. Le but, c'est d'éviter de dépasser les 12 mois, a affirmé M. Tremblay. C'est seulement quand ces deux solutions seront épuisées qu'on recourra à l'option des nouvelles ententes avec les cliniques privées pour offrir le service, a-t-il résumé. M. Tremblay n'a toutefois pas été en mesure de dire quand cette troisième option serait offerte. L'agence analyse toujours les propositions des cliniques privées qu'elle a reçues dans le cadre de son appel d'offres d'avril. Il n'a pas non plus indiqué si ce projet pilote pourrait être étendu à tout le Québec ou non. Pour l'instant, seules les cliniques privées de Montréal et de la Montérégie qui font de la chirurgie orthopédique et plastique sont visées. Un plan de 100 millions de dollars. Ainsi, malgré les retards du projet pilote, Santé Québec dit mettre toute la gomme pour réduire les listes d'attente en chirurgie. L'agence se prépare d'ailleurs à lancer un nouveau plan de reprise chirurgicale de 100 millions de dollars pour y parvenir, dont les fonds proviennent de l'entente conclue avec les médecins spécialistes au printemps 2027. Il s'agit, a dit M. Tremblay, de réaliser 20 000 opérations de plus pour retrouver le niveau de ce qui se faisait avant la pandémie et même le dépasser. Le plan stratégique de Santé Québec prévoit de faire passer le nombre d'opérations en attente depuis un an ou plus à 1500 ou moins au 31 mars 2027. La cible est de 1000 ou moins au printemps 2028. Mais M. Tremblay est optimiste et pense qu'on peut cibler bien en dessous de 1500 d'ici quelques mois. Dans le fond, on veut ne plus avoir de hors-délai. On souhaite ardemment dépasser ces cibles-là. Pendant ce temps, sur le terrain, le découragement des patients est grand. Marie-Soleil Hudon, 35 ans, attend depuis 3 ans d'être opérée pour un problème d'insuffisance veineuse dans les jambes. Ce type de chirurgie est considéré comme non urgente, mais l'attente a néanmoins des effets notables sur le quotidien des personnes. Ça cause de la douleur, de l'édème, de l'enflure et des fourmillements, raconte cette éducatrice à l'enfance du centre du Québec. À mon travail, quand les enfants veulent s'asseoir sur mes jambes ou qu'ils veulent faire certaines activités, il y a des jours où je leur explique que j'ai trop mal aux jambes, puis que je ne suis pas capable, raconte-t-elle. Je leur dis que mes jambes sont malades, mais qu'un jour, je vais me faire opérer. C'était... Une minorité d'opérations hors délai devrait être transférée au privé par Santé Québec. Un texte d'Isabelle Porter paru le 29 juillet 2026 dans Le Devoir.